RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. On salue Johan Durand qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui malheureusement. Il est encore dans ses montagnes pyrénéennes à Font-Romeu, on l'embrasse, il sera de retour rapidement. On vous remercie pour le soutien affiché sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava notamment. Et on vous dit de continuer de vous abonner sur les plateformes de téléchargement. RMC Running grandit grâce à vous et on en est très fiers. On espère que ça va se poursuivre pendant longtemps. Une croisée des chemins dans RMC Running aujourd'hui. On va marcher sur la ligne de crête entre le running, l'aventure et l'alpinisme parce qu'on reçoit Mathis Dumas, guide de haute montagne, photographe, aventurier, l'homme qui a permis à Inox Tag d'aller réussir l'ascension de l'Everest. Mathis qui va nous raconter son histoire, les coulisses de l'ascension. On va vous parler de son livre, justement, L'Ascension, qui vient de sortir. Et voilà, on va pouvoir vous raconter tout ce qu'il y a dedans. Il y a d'ailleurs pas mal de conseils. Ce sera la séance d'entraînement du jour. Comment préparer une ascension ? Mathis y a consacré tout un chapitre, ça va être passionnant, vous allez voir. Et puis j'ai un bon plan d'ossard en fin d'épisode, le 10 km run set and match, un 10 km parisien début octobre, avec une arrivée dans les allées de Roland-Garros pour les fans de tennis. C'est complètement dingue. Allez, enfilez vos baskets, saisissez vos piolets, c'est parti pour RMC Running.
RMC Running.
Mathis Dumas, à côté de moi, en studio aujourd'hui. Salut Mathis.
Salut, merci de me recevoir.
Bah écoute, avec plaisir. Ça va la présentation ? Guide de haute montagne, photographe, aventurier, c'est
bien résumé ? On pourrait peut-être ajouter influenceur maintenant.
Influenceur, ouais. C'est ça.
Mais c'est bien présenté, ouais.
Ouais, la percée sur les réseaux sociaux, ça fait partie de ton histoire commune avec Inox Tag, justement ce beau défi Kaizen. Plus de 45 millions de vues, j'ai vu sur YouTube, donc c'est complètement dingue la réussite de ce doc. Hein. C'était passionnant à suivre. Tu sors ce livre, L'Ascension, donc aux éditions Michel Lafond. On embrasse Baptiste Chassagne, notre ami qui t'a aidé, qui l'a coécrit avec toi pour mettre tes idées en place et tout. Et précision importante, j'ai dit que tu es photographe. C'est un livre très illustré. Il y a des photos de montagne de partout. Il y a des photos de toi enfant, durant toute ta vie, l'adolescence aussi qui a été importante. Et puis ensuite, sur tout ton défi, il y a 99,9% qui sont de tes photos. C'est toi qui as fourni les photos pour le livre.
Exactement, ouais. C'était un super travail là, que j'ai pu réaliser avec Baptiste Chassagne. Ouais. Et, donc, il a pu mettre des mots sur mes idées et sur les images que je rapporte depuis des années en haute montagne. Et effectivement, plus de 99% des images, c'est mes images que j'ai pu ramener, documenter durant toutes ces années.
Et il est magnifique. Hein. Ça pèse un peu, mais au moins, vous allez en prendre plein les yeux, toutes les images de montagne, d'ascension et de sommets vertigineux. Et surtout, toute ton histoire. Alors justement, avant d'attaquer ton histoire personnelle, on est RMC Running, on a un podcast de course à pied. Toi, tu te mets au trail un peu, tu étais sur l'UTMB, tu as fait la MCC d'ailleurs, sans trop d'entraînement, mais c'est bien passé. Hein.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai mis mon tout premier dossard cette année sur le cross du Mont-Blanc.
Ouais.
Donc en fait, pour moi, c'est vraiment, je suis à la maison, hein. c'est dans la vallée de Chamonix, là où je vis toute l'année, donc ça faisait du sens aussi, et c'était pour moi une manière de trouver un peu un objectif cet été qui me motive à m'entraîner et à sortir de ma zone de confort, et du coup, je m'étais fixé un peu la MCC comme défi de fin d'année, de fin d'été, et donc voilà, j'ai couru, mais bon, j'avais un tout petit entraînement, hein. J'ai regardé, j'avais même pas, je crois, j'avais moins de 200 km à la fin de l'été là, de course à pied, ouais. Donc je suis vraiment hyper nul, mais non, c'est bien passé parce qu'au final le cardio est quand même là.
Ah, c'est ça. Et toi, t'as l'habitude d'évoluer à haute altitude, tu fais du sport quasiment tous les jours, donc t'as un entraînement très sérieux. En fait, c'est juste musculairement peut-être que tu souffres, en fait.
C'est ça, c'est musculairement où voilà, on sent que les quadris, ça manque de volume d'entraînement. Et ce qui est marrant, c'est que dans les montées, je reprends beaucoup de monde. Et dans les descentes, j'arrive à être aussi rapide.
Ouais.
Par contre, sur le plat, je me fais. J'ai pas de vitesse.
Ça, c'est sûr.
Plat, je suis hyper nul. Quoi.
Faut pas t'envoyer sur une piste d'athlée, quoi. C'est ça.
Non, il y a Dorian Louvet qui essaye de m'embrigader sur des marathons, là.
Eh bah oui, bien sûr.
Mais je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus challengeant pour moi que les trails en montagne.
Ouais, enfin, après, s'il fait le malin, notre ami Dorian, tu pourras l'emmener sur un sommet comme ça, à 8000 mètres d'altitude. On verra s'il fait le mariole. On l'embrasse d'ailleurs. Tu sais qu'on suit son défi Miles of Discovery dans RMC Running depuis le début. Et on l'accompagne sur chacun de ses marathons, donc il a fait 60% de son défi là, avec le marathon de Sydney, et on vous donnera des nouvelles rapidement. Allons-y sur ton histoire, parce qu'elle est passionnante, cette histoire. Toi, tu grandis en Ardèche au départ, avec ton papa et ta maman, pas passionné de sport particulièrement, plutôt par les conneries d'enfance, hein, on peut dire ça comme ça.
Ouais, c'est ça. Bah, quand j'étais jeune, bah, en Ardèche, déjà, c'est une région qui est un petit peu particulière. Hein, ouais. Il y a, pour les jeunes, c'est vrai que c'est assez calme, on va dire. Ouais. Et donc, bah, j'aimais bien le sport, mais un peu comme tous les jeunes. Il n'y avait pas vraiment de... J'avais du mal à trouver un sens à ce que je faisais. Après,
ton père a essayé de t'initier au VTT un peu ?
T'as ouais, mais, des mais avec lui, hein, du côté de mon papa, c'était beaucoup vélo. Mon grand-père aussi, vélo, VTT à fond. Et ma maman, elle faisait plutôt triathlon, donc ouais. Course à pied.
Ah eux étaient sportifs les parents ouais.
Les parents ils étaient quand même assez sportifs ouais. Mais et du coup bah nous quand t'es jeune tu vois bien tu prends ça un peu comme une contrainte hein, quand des fois t'as envie de rester devant la play ou devant la télé enfin moi je me rappelle c'était un peu dur après t'es trop content de faire ton sport et surtout de partager ça avec tes parents en fait avec du recul c'était des moments qui étaient merveilleux mais c'est vrai qu'il y a des fois je me rappelle là, le dimanche matin mon père qui voulait toujours m'emmener faire du vélo 2-3 dimanches matin en hiver j'avoue que je traînais un peu la patte hein.
C'est sûr je me permets de parler de conneries parce que tu en parles toi-même dans le livre et ça fait partie de ton histoire et puis ça construit un peu toute cette histoire et tout le cheminement parce que t'es un peu turbulent, t'as une bande de potes, vous faites un peu de bêtises et on prend la décision, la famille prend la décision de t'envoyer en internat et c'est peut-être là que ta vie bascule finalement. Tu débarques en internat, d'ailleurs on voit ta chambre notamment qui est en photo et c'est vrai que ça fait pas rêver à l'époque. C'est un contexte très particulier mais c'est aussi grâce à ça que tu vas avoir cette révélation et cet amour pour la montagne qui va naître en fait.
Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire que là où j'étais en Ardèche, c'était compliqué pour moi de trouver une place, de trouver un sens à ma vie, à ce que je voulais faire. Et mon papa
Ton père qui te dit un jour en sortie de réunion parents-prof, qu'est-ce que tu veux faire ? Et toi, tu dis, je sais pas en fait.
Il me dit, en fait, je me rappelle très bien, j'étais en troisième et il me dit, mais là, si tu vas au lycée général, en seconde générale avec tous tes potes, il m'a dit, mais tu vas au carton, tu vas jamais rien faire de ta vie, quoi. Ça va être un désastre. Et il m'a dit, il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te passionne parce que la vie, en fait, elle est longue. Et si tu fais un métier qui te passionne pas ou quelque chose qui te plaît pas, il m'a dit la vie elle va être très longue, ça va être dur.
Bien sûr.
Et donc, mais bon, quand t'as 13-14 ans, c'est dur de se rendre compte de ça, c'est dur de réaliser ce qu'il te dit à ce moment-là. Et puis c'était un peu la période de l'hiver. Et moi je dis moi ce que j'aime bien, c'est aller au ski. Quand on va en famille au ski, mais tu vois, on y allait très peu. On habite en Ardèche, on y allait les week-ends un petit peu de temps en temps. Et du coup, mon papa qui s'était mis à rechercher un peu à droite à gauche des formations, des lycées, des métiers, et trouvé le lycée des métiers de la montagne à Saint-Michel-de-Maurienne.
Ouais.
Et du coup, c'était bien parce que il formait c'était une formation professionnelle, donc CAP, bac professionnel. Et en même temps, on était libéré une partie de l'année pour préparer un diplôme sportif. Mmh. Donc, comme accompagnateur moyenne montagne, moniteur d'escalade, pisteur secouriste. Et avec le diplôme de guide à long terme. Et du coup, je m'étais dit que ce soit ou par le côté industriel. Donc, moi, j'avais fait un CAP sur les remontées mécaniques.
Exactement. Et on voit tes photos, les mains dans le cambouis et tout. C'est passionnant. Mais ce sont tes débuts aussi en haute altitude parce que tu es sur des stations comme Val Thorens où tu es très haut. C'est la plus haute station d'Europe.
Exactement.
Donc là, tu te mets à travailler à 3000, 4000 d'altitude. Quoi.
Exactement. Et du coup, je m'étais dit que ce soit par le côté industriel, je travaillerai en montagne, en tout cas autour des stations de ski et je serai sur les skis, ou par le côté sportif. Mais vu qu'à cette période-là, je savais pas du tout si déjà j'avais même les capacités physiques et que j'allais pouvoir aller au-delà de tout ce qui fait peur quand même, hein, la prise de risque en montagne, c'est quand même pas évident. Et puis après, au fur et à mesure de rencontres, d'années d'études, et puis à chaque fois de traverser toute la région Rhône-Alpes, d'Ardèche en Savoie, tous les week-ends, parce que je rentrais quand même un peu les week-ends chez mes parents, à force de tout ça, j'ai fini par faire mon chemin jusqu'à atterrir à Chamonix, et puis passer le diplôme de guide de haute montagne.
Ouais. Exactement. Et on se rend compte dans ton histoire de la difficulté que ça représente de devenir guide de haute montagne. Dit comme ça, on n'a pas vraiment conscience de tout cela, mais c'est un vrai cheminement assez long. Ça fait partie de ton histoire et de celle de ton pote de toujours, Max, qui a été ton partenaire justement à l'internat, avec qui vous êtes très liés désormais parce qu'il y a eu un accident qui t'a fait peur, il a failli perdre la vie, finalement il s'en est sorti et ça vous a soudé encore plus. Mais c'est un vrai chemin de croix pour devenir guide de haute montagne. Il faut être fort physiquement, il faut savoir se débrouiller, il faut rester calme, il faut apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment un métier très difficile.
Ouais, le métier de guide de haute montagne, en général, on dit qu'il faut 10 ans entre le moment où...
10 ans, ouais.
Ouais, où tu y penses, et le moment où tu es guide, il se passe à peu près 10 ans, on va dire, en règle générale.
Et, donc c'est une motivation constante pendant 10 ans.
C'est ça. En fait, ce qui est très dur, c'est d'être fort dans plusieurs disciplines. En fait, il y a autant le ski que l'alpinisme, que l'escalade sur glace. Donc, il y a toutes ces disciplines-là qu'il faut maîtriser. Et c'est des disciplines qui ne sont pas du tout complémentaires. C'est-à-dire que le ski, ça va développer vraiment les grosses cuisses. Il faut être lourd pour être fort en ski, pour aller vite. Il faut être un peu robuste. Alors que l'escalade, justement, tu luttes contre la gravité. Et donc là, il faut plutôt être léger. Donc,
agile.
Agile, léger, souple. Là où les skieurs, quand tu fais beaucoup de ski, tu sais que c'est pas les qualités primaires, donc c'est toujours une balance à trouver entre fort en grimpe, puis fort en ski, puis il faut quand même avoir le cardio, plus la gestion de la montagne, les gestions des itinéraires, avoir un peu le pied montagnard, comme on dit.
Ça aussi, le pied montagnard, la gestion aussi de l'organisation pour te repérer, le sens de l'orientation, tout ça, c'est délicat. Hein.
Exactement, il n'y a pas que la partie physique pure, il y a vraiment toutes ces choses-là autour. En fait, on dit souvent, par exemple, les mecs qui font de l'escalade, un jeune qui peut grimper du 8B en salle, si en fait dans une cotation beaucoup plus simple en montagne, qui peut être apparentée à de la crapahute, tu vois, en montagne, s'il met le même temps pour grimper une voie très dure que d'aller dans des terrains faciles, bah, tu vois, t'as pas le pied montagnard, alors que c'est ça le métier de guide, c'est être justement agile, être un peu un chamois, un bouquetin dans ces terrains où il peut y avoir des prises qui s'arrachent, des rochers qui se dérobent sous tes pieds. Et c'est là où faut pouvoir être agile et trouver ta voie là-dedans.
Et ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'il y a à la fois le récit, il y a les photos, et il y a aussi les conseils. Tu fais des encadrés parfois justement sur des conseils, parce que tu sais aussi que tu vas t'adresser à un public jeunes, ou c'est la communauté YouTube aussi, ceux qui vous ont découvert à travers Kaizen, les 45 millions de vues. Il n'y a pas que des jeunes, mais il y a beaucoup d'ados quand même qui suivent InoxTag et qui ont suivi ces péripéties. Donc c'est pour ça aussi, j'imagine, que tu as incrusté quelques conseils de vie à ce moment-là. Et le premier que j'ai retenu, c'est que, et tu le dis très bien, c'est déjà trouver sa voie, c'est important, c'est difficile, mais c'est important comme ça pour se fixer un cap et un but. Et surtout, toi, tu dis que tu n'avais pas de talent particulier au départ. Toi, tu es un besogneux, tu es quelqu'un qui réussit à faire des choses par le travail, le volume de travail, d'ailleurs, tu le dis toi-même.
Ouais, le volume de travail, puis surtout, la passion. Hein. C'est quand même
la
passion, c'est ça qui t'anime. Une fois que tu es passionné par quelque chose, en fait, tout ce que tu apprends, tu l'intègres hyper rapidement et tu vois plus le temps passer. En fait, c'est plus comme, tu vois plus toutes les choses comme une contrainte. En fait.
La montagne, c'est devenu une obsession comme ça. Quand tu rentres dans cette formation scolaire, tu te fais pote avec Max toutes les après-midi, ou alors dès que vous avez du temps libre, vous allez comme ça, vous partez en aventure. C'était devenu obsédant carrément.
Ouais, le mot obsession, c'est peut-être un peu dur, je dirais, mais oui, on n'était pas loin de ça. En tout cas, on était vraiment très, très, très passionnés et on pensait que à ça. Moi, je lisais les topos, donc ce qui nous permet de nous guider dans la montagne en cours. Enfin, voilà, c'était vraiment passionné à fond et on pensait que à ça, on avait envie que de ça. Mais aussi, la période dans laquelle on était, quand t'es jeune et adolescent, c'est des périodes qui s'y prêtent bien aussi, avoir des passions où, tu vois, on n'avait pas de femme, pas d'enfant, pas de métier. Du coup, on avait tout notre temps libre, on le consacrait à...
T'as pas de contraintes particulières et puis tout est un peu exacerbé. Dès que tu trouves quelque chose qui te plaît, bah, tu as envie de le faire à fond. Quoi.
C'est ça, t'as envie de le faire à fond, t'as envie de te dépasser. Et puis quand t'as 20 ans, tu te sens invincible.
Alors justement.
Et du coup, ça peut amener à des problèmes.
Voilà, tu peux en tirer des leçons de vie avec ce milieu d'histoire personnelle, avec ce passage où tu racontes le fameux jour de l'accident de Max. Vous êtes tous les deux entre guillemets en expédition. Tu le sens partir comme ça, ton cœur se met à palpiter, toi tu deviens inquiet, etc. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est que tu connais la formation, tu sais exactement ce qu'il faut faire dans ces moments-là, mais une fois que tu es mis devant le fait accompli, c'est beaucoup plus dur à réaliser. Et donc pour contacter les secours, etc., c'est délicat. T'as pas forcément de réseau, donc tu trouves une solution, tu sais pas comment lui va, et là c'est un moment marquant de ta vie, parce que tu te dis peut-être que j'ai perdu mon pote et peut-être que lui a perdu la vie alors qu'on était partis tous les deux. Quoi.
Ouais, exactement, c'est des moments où forcément il se passe un milliard de choses dans ta tête, parce qu'effectivement quand il est tombé, moi j'ai pas pu voir où il s'était arrêté, donc c'est dur d'évaluer, on va dire, les conséquences de cette chute. Et à ce moment-là, effectivement, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Et après, pour moi, la priorité, c'était forcément d'appeler les secours et que lui soit en sécurité le plus rapidement possible. Mais je pense qu'il y a un événement surtout qui nous a... Enfin, en tout cas, à lui comme à moi, qui nous a permis dans notre vie d'après cet événement-là. En fait, ça nous a sauvés d'une certaine manière. C'était un peu comme une... J'ai l'impression de le prendre un peu comme une grande gifle dans
un avertissement, peut-être.
Vraiment un gros avertissement où tu te dis... cette fois-ci, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais par contre, il n'y aura pas de deuxième fois. Quoi. Et du coup, ça nous a permis, cette période-là, on avait 20 ans, on se sentait vraiment invincible. On pensait que rien ne pouvait nous arriver parce qu'on grimpait les choses les plus dures dans le massif du Mont-Blanc. Et puis là, on était sur une arête un petit peu débonnaire en neige. Et donc voilà, on se sentait vraiment invincible. On se dit, il peut rien nous arriver jusqu'au moment où ça arrive. Et moi, je pense.
Qu'est-ce qui se passe exactement ? T'es devant, tu le sens pas partir. Lui, il glisse et il perd ses appuis. C'est comme.
En fait, on était tous les deux à ski et puis on arrive à un col. Et moi, du coup, j'avais fait la trace ce jour-là. Il y avait beaucoup de neige fraîche et donc j'avais fait la trace jusqu'au col. Et au col, je dis, ah, bah, je vais faire des photos. Il l'arrête après. Elle est jolie. Ouais. Et il faut que je remette une veste. Et en fait, lui, il est parti sur l'arête devant. On n'était pas encordé. Et en fait, il a glissé plus loin sur l'arête et il est tombé dans la face nord, là. Et moi, je n'avais pas bougé de l'endroit le temps que je mette ma veste, que je fasse trois photos. Et en fait, j'étais en train de documenter, j'étais en train de faire des photos au moment où il a chuté, quoi. Et donc, ouais, non, c'était un moment vraiment particulier. Et moi, je pense derrière, ça m'a complètement réorienté aussi. C'est pour ça que je suis parti plus dans la photo.
Ouais.
Ça me permettait de gérer la prise de risque que je voulais mettre quand j'allais en montagne. J'avais toujours envie d'être au contact du haut niveau qui étaient mes potes et d'aller toujours dans.
Parce que tu as fait des championnats du monde, hein, on peut le préciser d'ailleurs. Tu avais déjà un niveau très élevé et tu pouvais te mesurer aux meilleurs mondiaux sur cette discipline. Hein.
C'est ça, ouais, je faisais les coupes du monde d'escalade sur glace. Ouais. Donc j'allais un peu aux quatre coins de la planète pour faire ces compétitions-là, mais qui me servaient comme. Nous, on le voyait vraiment comme un support d'entraînement pour aller en haute montagne. Et donc c'est vraiment à ça que ça nous servait. Mais du coup, tous les personnes avec qui on gravitait ou à qui on grimpait, qui étaient les meilleurs alpinistes du moment en France ou dans le monde. Et donc, bah, moi, j'avais toujours envie de faire des choses avec eux, mais du coup, j'avais envie aussi de mettre le curseur de l'engagement et du risque là où je voulais. Et en fait, la photo et la vidéo, ça me permettait justement de faire ça, quoi, de pouvoir doser mon engagement.
Ça t'a aidé à avoir cette appréhension et cette gestion de la peur et du risque, de te dire... Là, je peux pousser, là, j'y vais pas. Avoir cette balance interne de te dire, je dépasse pas la limite. Quoi.
Exactement, de pouvoir mettre le curseur là où je veux, en suivant de comment tu te sens sur le moment. Et, parce qu'il y a des fois, il y a des situations où tu sens, il y a une sorte de feeling à avoir quand même en montagne.
Bien sûr.
C'est un peu animal, hein, des fois. T'es un peu contre la nature. Hein,
donc, tu sens le danger, quoi.
Ouais, tu peux sentir le danger, alors que des fois, il n'y a peut-être pas forcément raison d'être. Des fois, l'inverse, des fois, tu sens pas le danger, alors que c'est des situations qui sont hyper dangereuses. Et c'est souvent après avec du recul, en fait. Et je vois même maintenant, à l'âge de 30 ans, là, je me dis, en fait, il y a plein de moments où j'ai survécu, quoi, vraiment. Et même avec mes potes, hein, on se le dit, on se dit, mais là, cette fois-là, on aurait pu y passer. Et parce qu'en fait, avec le recul, avec l'expérience, avec tu t'assagis, et du coup, tu réalises. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, tu réalises pas forcément tous les.
Précisons que Max va bien, il s'en est remis, il est devenu guide de haute montagne, il a obtenu son diplôme.
C'est ça, maintenant il est même formateur pour les guides. Donc,
voilà, donc tu vois, tout est bien qui finit bien. Cette passion de la photo aussi, qui fait partie de ton histoire, qu'on voit dans le livre et qu'on a vu aussi dans le doc. Comment ça naît ? Tu te rends compte que tu es face à des paysages sublimes, tu te dis j'ai envie de le conserver ces souvenirs en mémoire, ça part comme ça, et puis après tu te prends de passion. Hein.
De base, c'est vraiment, vu que j'étais parti d'Ardèche pour aller en Savoie, et c'était vraiment pour documenter ce que je faisais vis-à-vis de ma famille, de mes amis.
Ouais.
En fait, j'allais en montagne, et c'est vrai que je leur expliquais un petit peu ce que je faisais en montagne, mais pour eux c'était un petit peu abstrait. Et donc la seule moyen de leur montrer, de leur expliquer, c'était en prenant des images. Et donc de base, c'était vraiment à titre personnel que je faisais de la photo, quoi. Vraiment, je documentais mes aventures en montagne, entre guillemets. Et puis il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés. Il y a eu une demande énorme des partenaires pour avoir des images. Parce qu'en fait, tous les gars avec qui on grimpait et moi-même, on avait déjà des partenaires vu qu'on faisait les compétitions d'escalade sur glace. Et en fait, moi, de base, j'étais pas très fort en photo. Mais par contre, j'allais à des endroits où les autres photographes ne pouvaient pas aller.
Toi, tu avais les deux aspects. L'aspect athlète, tu pouvais les suivre, mais aussi l'aspect photo où tu pouvais créer des souvenirs.
C'est ça, exactement. Et en fait, vu que moi, naturellement, je prenais un appareil photo pour documenter mes sorties, et ben en fait, les mecs, enfin, c'était même pas un shooting, c'est-à-dire que je documentais, je faisais des images. Et après, derrière, les marques, les sponsors, ils étaient intéressés pour récupérer ces images-là. Parce qu'en fait, c'était le plus naturel possible. Tu ne pouvais pas faire plus que naturel. C'est vraiment, c'était pas un shooting photo, c'était juste notre sortie qu'on avait fait. Moi, je faisais des images, je documentais. Et après, ça a été vraiment exponentiel, on va dire, les demandes, les rencontres. Ouais. J'ai rencontré des athlètes de plus en plus.
Mais justement, pour donner une image, c'est comme si vous étiez passionné de trail, vous courez en montagne, vous avez un bon niveau, et un jour, Kylian Jornet vous contacte parce qu'il se dit eh « bah, pourquoi tu m'accompagnes pas ?» et comme ça, tu fais des souvenirs. Ça t'est arrivé avec des mecs très haut placés dans ta discipline. Quoi.
C'est ça, exactement. Et puis, ça allait très très vite à échelle de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et presque, ça a été même un petit peu avant le projet, justement, Kaizen avec Inox.
Ouais.
Ça a été tellement rapide que j'ai presque eu un moment de dépression parce qu'en fait ça
tout
a tellement
été
en 5-6 ans j'avais fait tout ce que j'aurais pu imaginer, j'avais rencontré quasiment tous les athlètes de la planète, tous les sports, j'avais déjà fait des shootings sur des expéditions, j'avais fait presque tout ce que je pouvais rêver de faire, j'avais déjà tout fait, et du coup j'étais un peu en mode bon ben j'ai même pas 30 ans
T'as un tableau, t'as coché toutes les cases, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire,
c'est ça, tu vois, moi ouais. J'ai vraiment besoin d'avoir à chaque fois du sens ou d'avoir des projets qui me motivent, et c'est vrai qu'une fois que tu les, quand ça va presque trop vite, je me suis rendu compte que
t'as pas le temps d'apprécier aussi,
c'est ça, t'as pas le temps d'apprécier, ouais. Et après t'as une sorte de dépression, tu te dis mais attends, j'ai fait tout ça là, et en fait ça allait tout trop vite, t'as pas eu trop le temps de profiter, et du coup c'est pour ça qu'après il y a eu le projet avec Inox qui est arrivé, et j'avais aussi ce recul là et cette maturité là pour justement lui apporter un petit peu de mon expérience, voilà.
Alors justement, l'histoire entre vous deux, ça paraît tout bête, tu ne sais pas qui c'est au départ, hein, Inox Tag, hein. C'est une star des réseaux, mais tu connais peut-être deux noms comme ça, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il veut faire, tu n'as pas connaissance du projet, lui il est en plein GR20 avec un de tes potes, et c'est cette personne-là qui vous met en relation, c'est ça?
Ouais, alors c'est avant de faire le GR20, donc lui il avait déjà commencé le projet Everest, donc il avait déjà annoncé, alors moi j'avais entendu le projet qui avait été annoncé, parce que forcément ça avait fait un peu le bad buzz dans tous les médias spécialisés, dans toute la presse spécialisée, et donc j'avais entendu à ce moment-là, mais je ne m'étais pas plus renseigné que ça sur qui il était. Et en fait, c'est Nico Mathieu, un ami qu'on a en commun, qui fait aussi de la création de contenu sur YouTube, qui lui préparait de faire le GR20 avec lui pendant l'été. Et donc, il l'a appelé au printemps, je crois au mois de mars. Il lui a dit, bah ok, donc il parlait de leur GR20, puis il lui a demandé, tu fais avec qui le projet Everest? Et donc, il a commencé avec d'autres gars. Et lui, Nico Mathieu lui a dit, bah écoute, en vrai, tu devrais appeler Mathis Dumas, ça pourrait être un bon gars pour toi, ne serait-ce que pour prendre des conseils, appelle-le.
Inox lui a dit, moi, je veux un guide sûr, quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui sera là dans les moments difficiles, quoi.
En fait, Inox, il lui a même rien trop dit. Il lui a dit, moi, j'ai mon équipe déjà, et donc il a pris l'info en disant, ah, bah, peut-être ce serait bien de contacter Mathis pour avoir des infos, mais c'est tout, quoi, pas plus. Derrière, on s'est contacté, on s'est rencontré sur Paris, et après cette rencontre, bah, moi je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, bah, si j'étais à ta place, la démarche que je ferais, elle serait comme ça, comme ça, comme ça, et pour filmer, bah, vu que j'ai quand même l'habitude de faire des films en montagne, je pense qu'il faudrait faire comme ça en termes d'équipe de production, ouais. Donc je lui ai un peu dit ce que moi je verrais pour lui au mieux, tu vois. Et au final, une semaine après, il m'a rappelé, il m'a dit, ok, si t'es chaud, on se fait un stage ensemble à Chamonix pour apprendre à se connaître, puis voir si ça match. On s'était vu juste pendant une journée, quand on s'était pas vu très longtemps. Et vu qu'on était quand même amené à passer beaucoup de temps ensemble, il m'a dit, on va se faire une semaine, 10 jours à Chamonix d'entraînement, et puis comme ça, on voit déjà si humainement ça match entre nous deux. Et puis, il m'a dit, en tout cas, j'ai bien aimé ton approche et tout, donc let's go, quoi.
Tu te lances dans cette histoire avec des a priori sur ce monde-là, ou comme ça fait partie du tien, les réseaux sociaux, le contenu? Tu te dis, c'est un autre moyen et c'est une possibilité de faire découvrir ce qu'on fait, les paysages qu'on a, etc. T'es un peu dans ce paradoxe, en fait. Le côté, je veux montrer au plus grand nombre ce que ça représente, le danger de la montagne, etc. Mais c'est aussi, je n'allais pas dire rendre ordinaire, mais c'est les critiques qui sont revenues souvent, mais rendre ordinaire une ascension de l'Everest qui paraît insurmontable pour la plupart des humains, quoi.
Ouais, bah c'est surtout tout le travail qu'on a voulu faire autour de ce projet-là, c'est-à-dire que de montrer justement que Inox Tag était entouré de professionnels de la montagne. Déjà
personnellement, tu as des a priori, toi, quand tu te lances ou pas?
Moi, ouais, bien sûr, j'ai des a priori jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on sort le documentaire.
Ah ouais, jusqu'au bout.
Ouais. Okay. Moi, je maîtrisais toute la partie montagne et la captation d'images. Après, sur la partie montage, j'avais moins mon mot à dire. Enfin, en tout cas, ils pouvaient monter un peu le film la manière dont ils voulaient. Ouais. Et je voulais que ce soit le plus fidèle possible à la réalité, et bon, c'est ce qui a été fait au final, mais c'est vrai que quand on n'a pas
la main dessus, questionnements au départ de dire le mec est créateur de contenu, il est sportif, mais je sais pas s'il est plus sportif que ça, il connaît pas l'univers de la montagne, est-ce qu'il sera capable de le faire déjà?
Ouais, non, mais de base, moi, vraiment au tout début, honnêtement, je pensais que c'était impossible. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, on n'arrivera jamais à faire l'Everest. On en parlait, mais je disais, bon, déjà, on va aller faire le Mont Blanc, peut-être on ira faire un sommet à 6000.
Ouais, le Mont Cervin, tout ça. Voilà,
le gars, de base, il avait fait un petit peu de muscu, mais sinon, il avait fait quasiment pas de sport. Donc, lui, il est passé, là, pendant le Covid, il me disait, il passait entre 10 à 12 heures par jour sur une chaise devant un ordinateur. Sans faire de sport, je me suis dit,
c'est pas la prépa idéale, ça.
Ça, c'est pas une prépa qui est top. Mais du coup, en fait, surtout, ce que j'avais peur, c'est que je me suis dit, même s'il s'entraîne à fond pendant un an et demi, qui est possible, il va se blesser. Enfin, ouais, à un moment donné, tes tendons, tes ligaments, ils vont lâcher. Avec une telle charge d'entraînement, d'un coup, quand tu passes de 0 à 1 comme ça, là, c'est trop violent. Donc, c'est surtout ça qu'on avait peur, et c'est tout ça qu'on a dû doser. Et après, moi, j'ai vraiment construit le projet comme un peu un jeu vidéo, tu vois, pour vraiment lui parler dans son univers. C'était vraiment de dire, bah, ok, le niveau 1, c'est faire un sommet à 4000 mètres. Le niveau 2, c'est faire le Mont Blanc. Le niveau 3, c'est le Cervin. Et ainsi de suite jusqu'à l'Everest. Et tant que tu passes pas le niveau...
Voilà. Faut valider chaque palier.
Exactement.
Quoi.
Et c'est ça qu'on a essayé de retranscrire à travers le documentaire, et qui a aussi surpris beaucoup de monde. parce que la préparation qu'on a fait, elle avait été un peu, était restée un petit peu pas secrète, mais on va dire un peu plus confidentielle.
Ouais, bien sûr.
À part le Mont Blanc qu'on avait montré sur les réseaux, le reste était resté plus confidentiel. Et du coup, quand on a sorti le documentaire, ça a impressionné beaucoup de monde, tu vois, de
bien
voir
sûr.
Qu'il avait fait le Mont Blanc, le Cervin, la Madame Lame. La Madame Lame, on l'a gardé vraiment.
Dans les appréhensions, est-ce que tu t'es pas dit aussi, ce sont des, parce que quand tu vas à Webedia dans les locaux comme ça d'Inox, à Levallois, tu te dis, mais en fait, déjà, les mecs arrivent à 14h, toi, tu t'es pointé à 10h, donc t'attends, ouais. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et les mecs débarquent comme ça en début d'après-midi, c'est toute une façon d'appréhender le travail, mais après, ils restent jusqu'à tard le soir.
C'est ça.
Ça fulmine d'idées, ils ont toujours envie de faire du contenu, des idées, ça brainstorm, etc. Tu te dis, est-ce que ma crainte, c'est est-ce qu'il va rester focus sur ce projet pendant un an? Parce que si tu ne mets pas un investissement personnel total, bah, c'est l'échec assuré aussi.
Ouais, complètement. Mais après, lui, l'effet d'annonce faisait qu'il n'avait pas le choix. Tu vois.
Ouais.
Enfin, vis-à-vis de ses...
Voilà.
C'est un peu, il s'était mis la pression lui-même, tu vois, à dire j'annonce et maintenant que j'ai annoncé, je n'ai pas le choix. Tu vois.
Ouais.
Et donc je savais qu'il n'allait pas lâcher quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Après, comme moi, je l'ai toujours appris et amené sur le projet, c'est que ce qui était important, c'était surtout l'expérience avant tout.
Ouais.
Et le sommet, c'était vraiment le bonus. Tu vois,
le Graal, ouais.
Et on a pas forcé. Si on... En tout cas, la sécurité, c'était le maître mot.
Ouais.
D'abord la sécurité, ensuite le sommet et en dernier les images. Mm. Vraiment dans cet ordre-là. Et du coup, après, on a eu un peu de chance. Il faut avoir aussi un peu de chance, tu vois, avec la météo.
Oui,
avec
la bonne fenêtre, tout ça.
Exactement. Il n'y a pas que la préparation. Il y a quand même une petite part de chance avec nous. Mais au final, non, il a pas lâché. Ça a continué. Donc, il venait à peu près une semaine, 10 jours tous les mois à Chamonix. Et on a fait. Et puis après, l'objectif aussi, c'était de varier les plaisirs, de ne pas être que sur la partie... montagne, alpinisme, c'est-à-dire qu'on a fait du ski de randonnée,
ouais, voilà.
On a fait de l'escalade sur glace,
bien
on
sûr.
A fait du canyoning, on a fait du parapente, voilà. Qu'il est aussi un spectre hyper large de
bien
toutes
sûr.
Les activités qu'on peut faire en montagne de manière générale.
Il y a un moment que tu racontes très bien, toi t'es Mathis Dumas, tu fais de la photo, tu connais les meilleurs alpinistes au monde, mais t'es dans ta montagne, donc tu débarques chez une méga star des réseaux sociaux en France qui fait des millions de vues sur YouTube. Et il y a un moment où les papiers arrivent, vous vous engagez sur le projet, et là, tu prends conscience de toutes les responsabilités et de la pression que tu as sur les épaules, la pression sécuritaire, la pression financière, la pression d'image aussi. Et ça, toi, personnellement, il faut le digérer aussi, parce que toi, tu n'es pas forcément préparé au départ à devoir assumer tout ça aussi.
Ouais, non, c'est sûr que là, c'est une composante vraiment en plus que je n'avais pas forcément mesuré, en tout cas de cette ampleur-là avec Inox. Hein, au début, moi, je savais qu'il était connu et moi, j'avais fait quand même beaucoup de choses avec des mecs très connus, toi, avec Kylian Jornet.
Ouais, voilà, déjà.
Des mecs quand même qui ont des gros noms. Mais ce niveau-là d'influence,
de popularité,
mec, popularité
ouais.
C'est un
ouais.
truc de fou quand même.
Ouais.
C'est, dans Chamonix, c'est pire que Zidane. Quoi. C'est vraiment c'est choquant. Moi, ça m'a vraiment choqué. La première fois qu'il est venu à Chamonix, je me rappelle, c'était au mois de mai. Le mois de mai, c'est un peu la période entre deux saisons, entre l'hiver et l'été, il n'y a pas trop de monde. Personne ne savait qu'il venait là parce que toi, c'était vraiment
oui,
secret
c'était
au début. Voilà. Et donc, il vient et je me rappelle, on était le soir, il pleut. Il pleuvait dans la nuit et on était dans les rues et puis on fait juste de l'hôtel au restaurant et on s'est arrêté 3 ou 4 fois quoi. Je dis ah ouais mais toi t'es
à Chamonix. Hein.
À Chamonix.
Ouais.
Je dis ah ouais mais toi t'es vraiment connu quoi. Là, et après on mange au restaurant, les mecs ils attendaient devant le resto
ah ouais,
et
c'est
tout.
Fou.
Enfin tu vois je me suis dit mais alors que j'étais vraiment avec beaucoup de stars de plein d'univers.
Ouais, bien sûr.
C'est arrivé très très rarement qu'on demande des photos, des dédicaces ou des trucs comme ça.
Mais ça fait peur quand on est responsable de ça quelque part.
Et bien en fait, ce qui est fou, c'est que Inox, il a une communauté qui est hyper engagée. En fait, il a vraiment eu. C'est l'une des communautés sur YouTube et même en France de manière générale, sur la partie influence, c'est lui qui a. Il n'a pas forcément les chiffres les plus gros en termes
ouais.
de nombre de followers et tout. Par contre, sa communauté, elle est engagée de malade.
Ah, elle est derrière lui à fond, quoi.
Ah ouais, à fond. Et du coup, il a vraiment une équipe de hooligans. Et en fait, si tu lui fais du mal, un peu, entre guillemets, enfin,
ouais.
toi, même sans...
Ah, bien sûr,
tu vois.
Ouais.
Et ben, je sais que ça allait retomber sur moi. Et vraiment, dans
bien
le point
sûr.
Où il fallait que je déménage, quoi. J'avais
ouais.
bien un plan où j'allais partir, limite, je quittais le pays, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Mais ouais, non, c'est
vraiment... Non, mais ça paraît futile de dire ça comme ça, mais c'est un vrai enjeu personnel pour ta vie personnelle à toi, quoi. C'est ça qui est fou.
Ah, ben, c'est ça.
Si
ouais,
ça se passe mal, tu vas le payer, quoi. C'est ça.
Et à la limite que tu le payes toi si t'as fait une erreur ou que bon qu'il se soit mal passé, à la limite moi j'assume les conséquences.
Ouais,
j'ai
sûr,
toujours dit moi j'assume à 100% toutes mes prises de décision et tout, mais par contre ce qui est le problème c'est que ça retombe aussi sur tes proches, tu vois, c'est ça
aussi,
qui est vraiment
ouais.
si les gens ils arrivent pas à t'atteindre toi, ils vont essayer d'atteindre ta famille, tes proches, tes amis, et c'est ça qui est dur après à gérer parce que bah du coup tu te fais lâcher aussi par ton entourage
bah,
donc ça c'est pas évident, et même Inox qui des fois lui il a envie de de dire ouais les gars calmez-vous, il y a rien et tout, mais en fait des fois ça va,
c'est trop fort,
c'est trop fort. Ouais. Les fans ils sont vraiment hooligans.
Il y a un élément qui te rassure, c'est quand même la mentalité d'Inox, l'investissement qu'il y met et le côté résilience à outrance, quoi. C'est-à-dire que quand on vous voit malade, il y a pas de chute cachée, il y a pas de vous avez rien mis de côté, etc. dans le documentaire. Enfin, quand on voit qu'il est malade, c'est pas pour scénariser le documentaire, c'est qu'il est vraiment malade, il peut pas y aller, mais lui il se force à y aller parce qu'il est tellement convaincu qu'il peut y arriver que finalement il se lance, quoi. C'est pas scénarisé à outrance, quoi, c'est ça que je veux dire.
Ah non, c'est même pas du tout scénarisé, hein. Ouais. Il y a rien que, il y a peut-être une fois ou deux, on a refait des voix parce que tu vois avec le vent en montagne et tout, on galérait à avoir du bon son, mais sinon sinon c'est vraiment la réalité pure et dure, et l'une des grandes forces de Inox c'est son mental. Il a un mental qui est vraiment impressionnant. Il a une force mentale à pouvoir se faire mal, à se rentrer dedans, à aller au bout de lui-même, qui est vraiment impressionnant. Enfin, moi, en tout cas, qui m'a impressionné.
Dans la séance, là, tu vas nous donner des conseils, parce qu'on va un peu reprendre le plan que tu lui as programmé pour, sur un an, te préparer pour une telle ascension, quand tu pars de zéro, hein, parce que lui, le monde de la montagne lui était étranger. Dans les grandes étapes, tu le dis, il y a Chamonix, vous rencontrez, tu lui apprends un peu à faire les manœuvres essentielles, si je peux résumer ça un peu vulgairement. Après, il y a la dent du géant, là aussi, ça devient... c'est pour lui permettre de prendre conscience. Là, on est à 4000 mètres d'altitude, l'Everest, c'est 8000, donc tu es la moitié du chemin. Donc, te dire, là, tu souffres, mais ce sera deux fois plus dur encore en haut. T'y aller comme ça, progressivement, étape par étape, pour lui permettre d'arriver prêt et déterminer le jour J, quoi.
Exactement, en fait, à chaque fois, à chaque stage qu'on faisait, je disais, bah, le prochain coup, on va faire ça. Et donc, des fois, il voyait juste la montagne de loin. Et il dit, non, c'est pas possible et tout. C'est vraiment impressionnant. Il y a des montagnes qui sont quand même impressionnantes. Et du coup, et en fait, au fur et à mesure d'apprentissage, de mise en confiance, déjà du matériel, puis de lui-même, puis vis-à-vis de moi, on arrive à construire des choses qui sont immenses. Hein. C'est vraiment la puissance de l'esprit de cordée, tu vois, du lien de la cordée qui se crée. Au fur et à mesure, et lui aussi, bah, tu vois, qui apprend à se connaître, à se découvrir jusqu'où il peut aller, est-ce qu'il peut marcher 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures non-stop, en s'alimentant très peu, en ayant un sac à dos très lourd, il fait très chaud, il fait très froid, enfin, c'est tout cet inconfort-là. En fait, l'alpinisme, c'est vraiment une question de résistance plus que d'endurance.
Ouais.
Il faut être résistant, il faut être robuste parce que tu vas pas très bien dormir, tu vas dormir en altitude, tu vas pas pouvoir t'alimenter comme tu veux, il va faire très froid, il va faire très chaud, des fois c'est un peu inconfortable, tu marches avec des crampons, t'as un cadeau qui est lourd. Donc c'est tout ça c'est souvent de l'inconfort. Et donc il faut réussir à passer au-delà de tout ça. Et donc fur et à mesure des journées passées en montagne, on montait le curseur de plus en plus haut pour voir jusqu'où il pouvait aller. Ouais.
Ça reste un profil particulier, un jeune qui se met au sport, qui a des aptitudes, qui mentalement est très fort et qui a le temps de le faire aussi parce qu'il a les moyens financiers qui lui permettent de tout mettre en œuvre pour. Un an de préparation pour une personne lambda, pour un défi si haut, c'est suffisant ou non, tu penses que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel?
Moi, je pense que ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel parce que lui, après, il a été vraiment... entouré du mieux possible.
Voilà. Il y a une sorte de bulle qui se met en place autour de lui et là tout est optimisé, quoi.
C'est ça. Et en fait, ce qui est assez fou et qui est fascinant, c'est quand t'es un petit peu connu comme ça, c'est que tout le monde vient te donner les bonnes informations, ouais, voilà. Les bons conseils et de bonne volonté, tu vois. Donc en fait, t'as tout de suite accès aux meilleurs spécialistes, aux meilleurs entraîneurs, un peu à tous les meilleurs conseils. Et plus le temps qu'il y a dédié, lui, c'est un an, c'est 360 jours où il pense qu'à ça, il fait que ça, et sa vie, elle est orientée qu'autour de ce projet-là. Donc, pour quelqu'un quelqu'un qui consacrerait beaucoup de temps en plus de son travail, c'est peut-être 5 ans, tu vois, d'investissement équivalent. Et puis en plus, quand t'es jeune, que t'as 21 ans, 22 ans, tu mutes hyper vite, quoi. C'est-à-dire que t'intègres vite.
C'est sûr.
Physiquement, il a
tu récupères vite,
c'est ça,
tu apprends vite, tu t'adaptes vite. Ouais, ça, c'est
exactement,
sûr. Ouais.
Exactement. Donc tout va hyper vite au final.
Quand tu t'élances sur l'Everest avec lui, tu te dis on a de grandes chances d'y parvenir, tu as des doutes, tu te dis il faut que la chance soit avec nous sur la fenêtre météo, c'est tout ça qui te traverse l'esprit?
Ouais, alors moi la plus grande doute c'était la blessure avant d'aller à l'Everest, tu vois, justement d'oser l'entraînement.
Ouais.
J'avais hyper peur que juste avant il se fasse une petite blessure, une cheville ou tu vois, une petite entorse à la con là avant de partir.
Ouais.
Ça me faisait vraiment peur. Ça c'était donc vraiment la première crainte. La deuxième c'était de tomber malade parce que tu vois, t'arrives dans des pays, le Népal c'est un des pays les plus pauvres du monde. La nourriture, nous on est quand même dans un environnement qui est très aseptisé, hein. Quand tu vas là-bas, faut faire attention à ce que tu manges, à ce que
t'es
tu bois.
T'es pas habitué aux mêmes bactéries dans l'alimentation, etc.
Bah, c'est ça, exactement. Donc, tu peux tomber malade hyper vite. Donc, il faut faire attention à tout. Donc, là, il faut vraiment être stacanoviste sur ton hygiène de vie.
T'as cette pression permanente quand vous y êtes.
Ouais. Bah, moi, je fais attention à tout ce qu'il mange, tout ce qu'il boit. Je dis, ouais, fais attention à ça, lave-toi les mains. Enfin, voilà, vraiment, comme tu vois. Et je le fais pour moi-même, tu vois. Mais vraiment, parce que je sais que c'est hyper important. Le moindre rhume, c'est fin de l'expédition.
T'es intimement convaincu qu'il peut le faire? Si tout se passe bien et que...
Moi, à partir du moment où je me suis dit, au moment où on pouvait le faire, c'est quand on a fait la Madablam. J'ai dit, ok, là, ça. On a fait la Madablam.
C'était l'étape importante, 6800, là, vous avez réussi et c'était le...
Tous les mecs qui font de la montagne et qui font de l'alpinisme, ils savent très bien que la Madablam, c'est
le
plus dur.
C'était le dernier palier, hein, je précise pour ceux qui n'ont pas suivi le doc ou qui l'ont plus forcément en tête. Le dernier palier avant de s'élancer sur les
vrais. Exactement, c'est le dernier sommet qu'on a fait en entraînement, qui était un sommet à 6800 mètres d'altitude. Qui est juste à côté de l'Everest, donc on allait dans la vallée du Khumbu, qui est la vallée de l'Everest, pour aussi s'imprégner de la culture locale, de la nourriture, et que comme ça, il y a moins de surprises, un peu comme un repérage avant une course. Et donc, ouais, une fois qu'on a fait ce sommet-là, donc sans l'aide d'oxygène supplémentaire, on est monté presque à 7000 mètres. Là, je savais que, bah voilà, il avait toutes les compétences pour aller faire l'Everest. Et en fait, dans le milieu de l'alpinisme, on sait que la Madablam est plus dure que l'Everest, et techniquement, et physiquement. Et donc voilà. Donc c'était à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, là, normalement, si on a de la chance avec la météo, qu'on tombe pas malade, qu'on se blesse pas, normalement, on devrait pouvoir réussir à faire l'Everest. Et donc après, la peur de tomber malade, c'était la peur de la météo, quoi. Il faut gérer le créneau météo. Et qui est très compliqué à gérer sur l'Everest, parce qu'en fait, tu dois partir plusieurs jours avant de faire le sommet. Toi, t'as presque une marge de 4 à 5 jours au moment où tu pars du camp de base avant d'arriver au sommet. Ouais. Et donc, quand tu dis go, on y va, tu sais qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière.
Tu lances la pièce. Tu dis
allez. Et puis, d'avoir une prévision météo fiable à 5 jours, c'est quand même compliqué.
Déjà, à Paris, c'est dur. Alors,
c'est ça.
Là, c'est sûr.
Donc, c'est pas évident. Et c'est vraiment ça qu'il fallait qu'on ait un petit peu de chance sur la météo pour que ça marche.
Je précise que tout ce qui est ascension de l'Everest et tout, c'est pas. Le livre, c'est vraiment un complément à tout ça. Donc, c'est pas là que tu vas le raconter. Et tu as bien fait de faire ce choix, d'ailleurs, notamment pour donner les conseils dans la troisième partie. Mais évidemment, allez regarder Kaizen si ça vous a échappé, même si on l'a dit, il y a 45 millions de vues sur YouTube. Il y a juste un moment que j'ai aimé. Ça parlera aux runners qui nous écoutent, trailer ou runner d'ailleurs. C'est la façon de monter. Moi, je trouve ça fascinant. Tout le monde se dit, c'est une montée régulière, etc. Comme quand tu es un peu en cyclisme où tu fais la montée d'un col. En fait, pas du tout. C'est un système de fractionnés comme on peut connaître en course à pied. Tu vas faire 20 pas d'ascension rapide et tu vas récupérer entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Parce qu'il y a un déficit d'oxygène, parce qu'il faut que tu récupères de ton effort et parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir si tu montes inlassablement. Quoi.
Ouais, c'est ça qui est assez bizarre et c'est un effort qui est horrible. Tu fais du fractionné pendant 4 heures, 5 heures d'affilée.
Ah ouais.
Et ouais, quand on a fait la Madablam, c'est vraiment comme ça. À l'Everest, elle est un peu moins fait parce que du coup, avec l'apport d'oxygène supplémentaire là, via les bouteilles, tu arrives à garder un tout petit rythme, mais en tout cas, c'est un peu moins violent. Mais à la Madablam, là, c'était très très raide et en fait, t'arrives pas à aller à un tout petit rythme suffisamment doucement pour vraiment faire un pas après l'autre. Donc en fait, tu récupères de ta dette d'oxygène et tu t'envoies 15-20 pas presque en apnée, quoi. Et boum, et là, t'exploses.
C'est comme si vous faites un sprint, puis vous arrêtez, voilà, toutes les... Ah, c'est fou.
C'est ça. Et toutes les minutes. Donc toutes les minutes, tu récupères pendant une minute, tu repars une minute et c'est horrible. Ouais. Horrible.
Est-ce que le guide de haute montagne que tu es a souffert physiquement ou toi tu l'as passé, je vais pas dire tranquillement, mais ou toi tu l'as passé assez correctement et tu étais vraiment focus sur lui?
Non, bah après nous c'est sûr qu'on est là pour performer pour lui, mais après on reste des humains. Il y a des jours où on est forcément on est moins bien, on est moins en forme, on peut être fatigué. Et puis moi j'avais aussi toute la pression de gérer l'image. Voilà, on avait des caméramans avec nous à gérer les Sherpas, je faisais aussi de l'image aussi en même temps, plus gérer Inox, enfin ça faisait beaucoup de charge mentale. Donc forcément il y a des fois où on est un peu épuisé. Et moi j'avais un petit peu souffert sur la Madablam, là j'avais un petit problème de bronches que j'ai pu régler par la suite. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec l'alpinisme, on va dire en haute altitude, c'est que c'est vraiment une question d'expérience sur se connaître
soi. Se connaître soi-même.
Et ça, en fait, tu peux pas le savoir avant de...
Non, c'est sûr.
C'est comment tu
vas
t'acclimater.
Mais ça, c'est transposable sur toutes les disciplines, notamment les disciplines d'endurance. Ça, c'est vrai.
Ouais, exactement. Ouais. Mais sauf que là, les enjeux sont tels.
Ah bah là, tu joues avec ta vie, donc c'est différent.
Avec ta vie, c'est des enjeux financiers qui sont énormes. Ouais. Tu pars pendant un mois, tu vois.
Bien sûr.
C'est pas, tu vas faire une course et bon, ça se passe mal, c'est pas très grave.
t'abandonnes et puis
ta journée en l'air, c'est pas très grave, là t'es parti à l'autre bout du monde, ça fait déjà 15 jours que tu fais des treks, quand ça marche pas c'est un peu plus chiant,
c'est sûr.
Mais ouais, non, du coup, madame, j'avais un peu souffert, notamment à cause de cette histoire de bronche, là, j'avais la gorge hyper sec, en fait l'altitude, en altitude l'air est très très sec, et du coup en fait j'arrivais plus à déglutiner, tu vois, donc c'était vraiment compliqué pour moi. Et après j'avais trouvé un remède là avec un masque, c'est les fondeurs qui utilisent ça dans les pays nordiques pour lutter contre justement l'air trop sec, l'air trop froid quand il fait moins 20, et du coup après on utilisait ça pour la marge d'approche et quand on faisait des efforts, et
parce que ça conserve l'humidité que tu peux expirer,
c'est ça, en fait c'est un peu horrible parce que ça te met comme un filtre devant la bouche, donc déjà t'as du mal à respirer,
t'as l'impression d'étouffer quoi,
c'est ça, ça rajoute un peu de difficulté. Mais par contre vu que ça humidifie l'air qui est très sec, du coup là moi ça me brûlait moins la gorge, et pour la suite là après à l'Everest j'étais vraiment, ça m'a changé mon expédition, et donc ça c'est des petits détails comme ça qui font que derrière ça se passe hyper bien et ça change tout quoi.
Je vous laisse aller revisionner l'émotion de l'arrivée lorsque le défi est réalisé, la difficulté de la descente, parce qu'on parle beaucoup de l'ascension, mais ce qui est dur c'est de redescendre quand tu fais une telle expédition, donc c'est que la moitié du chemin, donc ça c'est sûr que la redescente c'est un autre enjeu pour toi.
Ouais c'est ça, en fait l'alpinisme c'est un sport, ce que je disais à Inoxtag au début, c'est qu'il n'y a aucun autre sport quasiment où tu peux pas t'arrêter en plein milieu, tu vois. Une fois que t'es lancé, même sans dire au sommet ou quoi, il y a personne qui va venir te chercher. Toi, tu cours au bord d'un stade ou un trail, par exemple, tu t'arrêtes au bord du chemin ou tu t'arrêtes au ravito. Bon, allez, peut-être tu vas marcher un petit peu pour rejoindre une route.
T'arriveras à rentrer chez toi.
C'est bon, c'est ça. Ouais. Là, t'es au milieu de la montagne et encore plus en Himalaya, il n'y a pas d'hélicoptère qui va venir te chercher. Il y a personne qui va venir te chercher. Personne va venir te porter. Hein. Et donc, même si t'as plus d'eau, même si t'es cuit, même si tout ce que tu veux, même si t'en peux plus, même si t'es blessé. Ben, faut quand même continuer. Et ça, c'est mentalement, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup forgé quand j'étais jeune, parce que, comme tout moment, toi, t'as des coups durs, t'as des coups de mou, et là, tu sais que t'as aucun choix, quoi.
Moment de tension entre vous, d'ailleurs? Des petits, des micros?
Non, je crois pas. Franchement, je crois qu'il n'y en a jamais eu de moment de tension. Ouais. Après, moi, je suis assez relax, mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir. On n'a jamais eu de moment de tension. Et après, forcément, quand tu arrives au sommet, c'est assez particulier parce que souvent, on se félicite au sommet, mais effectivement, c'est que la moitié.
Pas fini, bien sûr.
Et souvent, on se focalise sur la partie montée pour faire le sommet dans les bonnes conditions et tout, et on oublie un peu la descente, qui peut être très très dangereuse. D'ailleurs, la plupart des accidents arrivent dans la redescente.
Ouais. Ensuite, il y a tout l'aspect montage, réalisation. Il y a ces diffusions au Grand Rex. Et puis après, c'était en avant-première, après sur les réseaux et sur YouTube notamment. Et là, toi, ta vie, elle bascule. C'est fou. Tu me disais, en une soirée, t'as pris 300 000 abonnés sur Instagram.
Ouais, c'est ça.
300 000
c'était fou. Le soir où c'est sorti, là, au cinéma. Et en fait, aussi, moi, ce qui était assez fou dans ce projet-là, c'est que moi, de base, j'ai toujours été un peu l'homme de l'ombre. Tu vois,
bien sûr.
Projets. Moi, j'étais là pour documenter, mettre en avant les exploits des athlètes, des autres. Et jamais moi, à titre personnel, tu vois, ça n'a jamais été la démarche, d'ailleurs. Et je pensais que là, avec Inoxtag, c'était ça aussi qui m'avait présenté. C'était vraiment un documentaire centré sur lui, sur sa performance, sur son exploit. Alors après, je savais que peut-être que j'allais apparaître un peu
évidemment.
À l'image et tout.
Bien sûr.
Mais je pensais pas. Bon, après, j'étais là au montage et tout, donc. Mais je pensais pas qu'ils allaient m'accorder.
Mais tu pensais pas que la retombée allait être aussi forte, quoi.
Ouais, ils m'ont accordé une place qui était énorme, un peu le second rôle du documentaire.
Bien sûr.
Et puis derrière, le documentaire qui a été au-delà de nos espérances aussi en termes de succès. Hein, ça a vraiment pris un engouement énorme. Et derrière, le public qui a adhéré et qui ont bien aimé. Cet univers qu'on a pu transcrire et qui ont aussi adhéré à mon profil, donc c'est bien. Et ouais, c'est vrai que la sortie du je crois que j'étais à 300 000 sur Instagram, je suis monté à 700 dans la soirée ou quelque chose comme ça. C'est incroyable.
T'avais déjà une grosse communauté, mais là ça a été explosé avec ce doc. D'ailleurs, tu racontes une anecdote assez marrante. Tu dis depuis, c'est vrai qu'avant j'allais parfois faire mes courses à l'arrache avec un vieux t-shirt tout pourri. Maintenant, je suis mieux de faire attention. Je mets toujours un truc un peu, je surveille un peu mon image, quoi.
C'est ça, parce qu'en fait maintenant, franchement, partout où je vais et même avec Inox, c'était fou, c'est que partout où on allait, il y a toujours quelqu'un qui nous reconnaissait.
Ouais, c'est ça, bien sûr.
Et du coup, t'étais jamais incognito, même des endroits où tu te dis, mais c'est pas possible, je sais pas, tu vois, des endroits complètement improbables où tu te dis, personne peut s'attendre à ce que tu sois là.
Ouais.
Où, tu vois, c'est sorti du contexte, des fois, tu peux pas reconnaître des gens.
Ouais.
Tu te dis, tu as toujours un mec qui va te reconnaître, qui va vouloir faire une photo, et donc là, faut quand même faire un peu attention.
On parlait de mental tout à l'heure. Comment, toi qui avais validé beaucoup de choses déjà et qui est tombé dans ce projet magnifique, immense, comment on se remet mentalement d'un truc pareil? Comment on repart sur d'autres aventures, d'autres expéditions, d'autres envies, justement?
C'est pas évident, hein. C'est pas facile, parce que justement, quand on fait l'Everest, et en plus avec la portée médiatique qu'il y a eu, les images qu'il y a eu, pour moi, c'est un peu dans la partie photo-vidéo Et la partie guide, c'est un peu la fin du game.
Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de plus dingue ?
C'est une bonne question. Et c'est pour ça aussi que cette année, j'avais besoin de faire un petit pas en retrait, d'aller dans d'autres univers. Donc, je fais pas mal de vélo de route, de course à pied, notamment avec le livre que j'ai écrit, qu'on a co-écrit avec Baptiste Chassagne. Donc, ça m'a donné envie parce que lui, il était tout le temps là en train de s'entraîner.
Ah bah oui, il a fait deuxième l'année dernière.
à l'UTMB. Donc c'était hyper inspirant. Et donc, j'avais besoin d'aller dans d'autres univers pour justement retrouver de l'inspiration, ne serait-ce que créative pour la photo et la vidéo, voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres univers. Et aussi, d'un point de vue sportif, de mettre un peu d'autres enjeux parce que c'est vrai que derrière, aller retourner au Mont Blanc, c'est un peu moins motivant. Et donc, j'avais besoin là, de prendre une petite année aussi de recul. Et là, les prochains projets, je pense qu'on va partir sur les Seven Summits, donc faire le plus haut sommet de chaque continent. Le prochain sera sûrement le Vinson en Antarctique.
Ouais.
Et dans l'idée de les faire à chaque fois, de les partager avec une personne, un invité à chaque fois, un skieur, un grimpeur, trailer, qu'on partage une aventure unique.
On peut t'envoyer notre pote Yoann Durand, marathonien de l'équipe de France.
Ouais, bah, s'il veut venir faire un sommet sur les.
Il aime pas le froid. Puis il aime bien dormir, donc à mon avis.
Ah bon, bah alors. Ouais,
et le problème, c'est qu'il est déjà à 57 kilos. Donc là, si tu le fais maigrir encore plus, on va le perdre.
Ok, ça va être compliqué alors.
Bon, on essaiera en tout cas, on regardera. Mathis, reste avec nous. On veut profiter de ton expérience justement pour donner pas mal de conseils.
RMC, la séance.
Ça fait rêver, c'est de l'aventure, c'est de l'ascension, c'est de l'alpinisme, c'est ce que vous voulez, mais il y a des clés, il y a une préparation, un peu comme quand vous préparez un marathon, un ultra-trail, un 100 miles ou quoi que ce soit. Il faut se préparer, il faut un temps de préparation, c'est ce que tu as mis en place avec InoxTag. Donc, je voulais qu'on profite de quelques minutes pour donner quelques clés physiques, morales et logistiques, surtout, parce que tu pourras nous expliquer, d'ailleurs, il faut aussi ouvrir les yeux, c'est ce que ça représente le coût d'un tel défi. Ça représente environ 10 000 euros par personne, c'est ce que j'ai vu, c'est ça ?
Ouais, c'est plus que ça.
Pour se lancer sur les vrais, c'est plus
que
ça.
Ah non, c'est bien plus que ça. C'est 70 000 euros par personne.
70 000 euros par personne, voilà. Donc, ça vous laisse imaginer le budget que ça représente. C'est pas un défi à prendre à la légère. Mais moi, je pense à tous ceux qui rêvent, pourquoi pas, d'aller faire l'ascension du Mont Blanc. Ça peut être un défi personnel. On a vu beaucoup d'histoires comme celle-là. Combien de temps de préparation pour une personne normale, tu penses est-ce qu'un an, c'est suffisant pour se préparer pour une telle aventure ?
Alors, on parle de quoi, du Mont Blanc ou de l'Everest du coup ?
Bah, on va parler du Mont Blanc parce que l'Everest, ça paraît inaccessible.
Ouais, alors l'Everest, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très très cher. Après, il y a plein d'autres sommets, même des 8000 qui coûtent beaucoup moins cher, mais l'Everest, c'est vraiment très particulier. Il y a un permis qui coûte très très cher. Ouais. Même le Lhotse qui est juste à côté coûte deux fois moins cher, alors que c'est quasiment la même voie tout le long. Donc voilà, vraiment l'Everest, il y a quelque chose de très particulier. Effectivement, ça demande des finances qui sont importantes. Mais après, un sommet comme l'Everest, bah, pour le coup, c'est beaucoup plus accessible. En comparaison, il y a beaucoup beaucoup plus d'ascensionnistes.
Comme le Mont Blanc, ouais.
Ouais, le Mont Blanc. Ouais. Des personnes qui font du sport régulièrement, qui s'entraînent de manière régulière, en général on fait des stages Mont Blanc, ce qu'on appelle des stages Mont Blanc, c'est-à-dire qu'en une semaine tu fais, on va dire, deux jours de montagne,
ouais,
avec une nuit en refuge pour faire une nuit d'acclimatation. Après tu refais une journée en altitude mais en dormant dans la vallée, et après tu peux partir sur le Mont Blanc. Tu vois, ça on le fait de manière assez condensée sur 5-6 jours. Ça c'est quelque chose qui est assez classique, que la plupart des gens arrivent à faire, et il y a un bon taux de réussite sur ça, on va dire, pour des gens qui sont en bonne forme et qui pratiquent un sport de manière régulière. Après, c'est sûr que si des personnes qui font très très peu de sport de manière régulière, ça demande un peu plus d'entraînement, ou alors une très très bonne acclimatation. Parce qu'en fait, après, on va pouvoir faire des petites journées, mais du coup, on va passer beaucoup plus de temps en altitude, on va aller moins vite, et c'est là où ça demande du coup de passer en amont du temps en altitude. Et donc, en fait, les personnes qui sont physiquement un peu moins fortes, on va compenser en passant plus de temps en altitude pour justement compenser ce manque de cardio. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en altitude, ce qui est très compliqué, c'est que les personnes qui sont habituées à cramer beaucoup d'oxygène, donc les personnes qui font beaucoup, beaucoup de sport, enfin un gros volume d'entraînement, en fait, ils habituent leurs muscles à cramer énormément d'oxygène. Et donc, c'est pas forcément très bon pour quand on va en altitude. Aïe. Donc, les trailers...
Je t'en vois pas Yoann Durand, alors.
Les trailers ou les personnes qui ont des gros, gros niveaux physiques, et ben, c'est pas forcément les meilleurs en altitude, tu vois. Même des mecs comme Kylian Jornet, c'est pas...
Bien sûr. Capacité hors norme,
capacité hors norme et tout, mais par rapport à des mecs qui sont beaucoup moins forts que lui, tu vois, il était dans les mêmes temps sur des chutes, dès qu'il passe les 4000 mètres, même tu vois Matteo Jacquemus quand il a fait le record du Mont Blanc avec lui, Kylian il allait beaucoup plus vite dans la vallée, et jusqu'à 2000-2500 mètres il l'explosait. Par contre sur la partie haute à plus de 4000 mètres, en fait Matteo allait beaucoup plus vite que lui, tu vois.
C'est pas le même effort.
Et là du coup ça dépend de ta physiologie.
Donc un système de, entre guillemets, week-end shock, passer du temps en montagne, en altitude, habituer l'organisme comme ça à digérer tout ça. Il y a une gestion du stress aussi qui est importante, parce que c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est la gestion du risque, de la peur et du stress. Forcément, le stress monte et augmente, le rythme cardiaque peut s'accélérer, mais ça, c'est là que c'est important d'avoir de l'expérience et de la connaissance parfaite de soi-même.
Exactement. Plus on se connaît, mieux c'est. Bah justement, pour s'alimenter, plus on a pratiqué avant, ça permet de diminuer le niveau de stress.
Bien sûr.
On prend confiance dans notre gestuelle, dans l'équipement, dans les crampons, dans la corde, et après, dans les personnes qui vont vous accompagner en montagne, ça peut être le guide ou d'autres personnes expérimentées. Voilà, on prend confiance, on se fait confiance mutuellement, et tous ces petits facteurs-là, ils permettent de diminuer le taux de stress et donc d'être plus à l'aise, plus confortable. Et du coup, ça réduit le niveau physique aussi, hein, parce que moins tu es stressé, mieux tu vas dormir au refuge, plus tu vas être reposé avant d'aller faire ton ascension. Et après, sur le moment, justement, tu vas pouvoir avoir des gestes qui sont plus souples, entre guillemets, que si tu étais complètement crispé et stressé, quoi.
Il y a aussi l'aspect logistique, mais ça, tu l'expliques très bien. Donc, j'invite les gens à aller acheter le livre L'Ascension, parce que tu fais carrément comment faire son sac pour l'Everest, avec toutes les tenues détaillées, le piolet, tout ce qui est nécessaire, la montre, le sac, tout le matériel indispensable, hein, qui est assez lourd. Hein, c'est une sacrée logistique. Mais là, c'est pareil. Il faut avoir une précision extrême, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi.
Non, c'est comme quand on prépare un ultra.
Hein, ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Chaque petit détail, même là sur la nourriture, le moindre petit gel, à quel moment tu vas le prendre et tout est calé. Et là, quand tu pars sur une expédition comme l'Everest, forcément, il n'y a rien que tu laisses au hasard. Tout le matériel, tu l'as déjà éprouvé auparavant, tu as déjà tout testé. Et chaque gramme compte. Voilà, c'est vraiment que le meilleur matériel que tu vas prendre, et tu ne fais vraiment pas de compromis, quoi.
Le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de se faire encadrer aussi par des spécialistes, des guides de haute montagne qui vont vous aider à aller accomplir cet objectif. De ne pas vouloir aller trop vite, j'imagine aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver entraînés, qui peuvent se dire non, mais moi je veux aller plus vite, et puis ils peuvent le payer ensuite.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est souvent aussi le problème d'avoir un gros niveau physique de base, c'est que tu as envie d'aller très vite. Et donc tu as envie de griller des étapes quand tu es fort. Tu as envie d'aller tout de suite hyper vite, alors que c'est pas la meilleure chose à faire. Il faut vraiment réussir à prendre son temps, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer à travers le documentaire Kaizen, justement, que Inox, il avait, c'est pas fait du jour au lendemain, et aussi à travers mon livre, voilà, que
il n'y a pas de hasard.
Ça s'est fait. Moi, ça m'a pris quasiment toute ma vie pour avoir ce niveau d'expertise-là et d'entraînement-là. Donc ça peut aller assez vite si on est bien encadré, mais par contre, ça prend quand même la montagne, ça demande de l'expérience. En fait, il faut vraiment passer du temps en montagne. Il n'y a pas d'autre choix que de faire ça.
Je ne vais pas préparer ça le long de la Seine, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire.
Ça pourra faire partie de l'entraînement, mais l'expérience mais non, montagne, ça va manquer un petit peu à un moment donné.
Il faudra aller en montagne. Mathis, reste là, j'ai un bon plan d'ossard pour les auditeurs.
RMC, le bon plan d'ossard.
Et le bon plan d'ossard, cette fois-ci, c'est un dossard pour une toute nouvelle course, très sympa d'ailleurs si vous êtes fan de tennis. Une première édition pour le 10 km organisé près de Roland-Garros, voilà, c'est le 10 km Run, Set and Match. C'est le 5 octobre, magnifique épreuve, 10 000 coureurs attendus et un final spectaculaire dans les allées de Roland-Garros. Donc on est dans le limite de Boulogne-Billancourt, le 16e arrondissement de Paris, puis ensuite on revient comme ça dans les allées de Roland-Garros. C'est vraiment une course qui va être très sympa. Ensuite, vous avez toute une journée qui est organisée, un événement familial et festif. Il y aura un village animé toute la journée à Roland, donc allez vous faire plaisir si ça vous intéresse. Si vous voulez participer au tirage au sort, vous allez sur notre compte Strava ou notre compte Instagram, et on mettra le lien pour gagner les deux dossards. Un grand merci Mathis Dumas d'être venu dans RMC Running, c'était passionnant de t'écouter.
Merci de m'avoir reçu.
Bravo pour le travail. L'Ascension, édition Michel Lafon, chez tous les revendeurs, hein, classiques, la Fnac, etc. Vous l'avez également sur internet via Amazon et tous les revendeurs.
Exactement.
Allez-y, parce que c'est beau et c'est très instructif, donc ça va vous donner la passion de la montagne. Merci Mathis.
Merci et bonne ascension à tout le monde alors.
À bientôt Mathis, et toujours ce conseil pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
RMC Running.